Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le jeudi 30 juin 2021 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce saison 2, épisode 87. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Bonjour à tous, ici Adrien, accompagné de l'incollable Laetitia. Ne cherchez pas, ça fait 2 ans que j'essaye, je n'ai toujours pas réussi. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé et authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne.
Non, ça n'a pas du tout à voir. On sent qu'elle est...
C'est une voix plus grave, plus agréable, plus douce et plus enrobée, tu vois, comme le vin.
Au sommaire de cette émission, des news simples et funky, on passera le mic à Vilia, qui est Head of UX chez l'agence D&D. Avec Vilia, nous parlerons d'usine à site ou comment accélérer son time to market en développant plusieurs sites, plusieurs marques et dans plusieurs pays. Pas d'Amazon cette semaine, mais un ShopeeZoom. Adrien a assisté à l'événement de l'année de Shopify, Shopify Unite. Retour d'expérience et annonce garantie. Et comme à chaque fin d'émission, on terminera avec du fun, on rigolera et on se challengera autour de jeux qui ont trait à l'e-commerce et à l'actualité de la semaine. Adrien.
Laetitia.
Prêt.
Synchronisation des montres.
Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine, mais qu'il ne faut pas louper, c'est la rubrique des news simples dans un format funky.
La fintech Molly lève 672 millions d'euros et est valorisée plus de 5 milliards d'euros, ce qui fait d'elle une licorne. Elle prévoit de recruter 300 personnes dans les prochains mois.
Coucou Axel, si tu m'entends, puisque je sais que tu es chez Molly. Blocage des cookies tiers, Google se laisse un an de plus.
Coucou Fred, je sais que t'es chez Google. La startup Beavs, application d'achat et revente dédiée à l'univers de l'enfance, lève 3 millions d'euros.
Carrefour expérimente l'éco-store sur son site e-commerce.
L'autorité britannique de la concurrence ouvre une enquête contre Google et Amazon. au sujet des faux avis.
Ça va être dur cette émission. Wix rachète Modaliste, solution de dropshipping.
6 mois après son lancement, 900 Care lève 10 millions d'euros.
Etsy rachète la marketplace brésilienne Hello7 pour 217 millions de dollars.
Instagram, poster des photos et une vidéo depuis un PC, c'est enfin possible.
Mais pas depuis un iPad. Allez, on passe à la news what the fuck de la semaine.
Après Microsoft, Alphabet, Amazon et Apple, c'est Facebook qui passe le cap des 1000 milliards de dollars en bourse. Alors malgré, pourquoi c'est what the fuck? Parce que malgré tous les scandales qu'on a pu voir, et encore il y a quelques semaines, quelques mois, où il y a eu des fuites de données, toutes les polémiques qu'on peut voir autour de Facebook, et ben, tous les voyants sont au vert pour Facebook, qui se porte très très bien en bourse.
Et ben, on fait un petit coucou à Marc, parce qu'on sait qu'il travaille chez Facebook et qu'il nous écoute.
Coucou Marco. Quoi de neuf chez nous? C'est la rubrique où on parle de nous. Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine chez toi? Enfin, ces deux dernières semaines, parce qu'on n'a pas enregistré la semaine dernière.
Ouais. Où est-ce que t'étais? Alors, je sais pas si j'étais quelque part. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais
ça
je crois
être
que c'était
très loin pour ne pas enregistrer.
Ouais, c'était très loin avec un très gros décalage horaire. Non, mais il y a 2 ou 3 épisodes, je vous explique que j'avais laissé un avis. Enfin, non. On m'avait incité à laisser un avis client sur Amazon en échange d'un cadeau. Et ben, écoutez, j'ai bien reçu le cadeau. Enfin, j'étais très déçue parce que pour le coup, il n'y avait pas de packaging, il n'y avait pas de petits mots de remerciement. Et il n'y avait aucune incitation à relaisser un commentaire ou à recevoir un autre cadeau. Donc du coup, bah là, j'étais un petit peu déçue. Tout ça pour dire que ça a fonctionné, les délais ont été respectés. Et du coup, l'article est bien en plus.
Ok, merci. Bah, c'est comme quoi vendre son âme au diable, bah, il y a un bon service après-vente.
Ouais, ouais, il y a un bon service
après-vente. J'ai vu une news cette semaine autour d'Amazon qui pointait du doigt justement les réseaux sociaux pour les faux avis sur sa plateforme. Et j'ai pensé à toi.
Moi, j'ai pas laissé un faux avis. J'ai donné un vrai avis.
Pour moi, c'est la même chose. Ok, un vrai avis.
Non, quand tu t'exprimes, c'est forcément faux.
Ok, qu'on a
payé. Et heureusement que j'ai payé.
Alors ça, c'est un avis sponsorisé.
Bah,
tu devrais écrire quand tu mets un avis.
Avis sponsorisé.
Ouais, c'est ça. J'ai reçu ce produit gratuitement.
Non, avis vérifié, il devrait y avoir d'ailleurs.
Avis vérifié, sponsorisé. J'ai été payé pour mettre 5 étoiles. Sinon, j'aurais pas posté.
Mais j'ai pas été payé.
Bah si, t'as reçu un produit.
J'ai reçu
t'as pas
un
été
produit.
Payé avec
j'ai
de
été incité.
D'accord, tu joues sur les mots. De mon côté, Laetitia, bah, c'est une news un petit peu commune parce qu'après avoir fait les recos micro sur un Notion qu'on a partagé, après avoir partagé les acronymes la dernière fois, vous avez retrouvé en lien, on vous partage désormais les événements e-commerce. On s'est dit que c'était quelque chose également qu'on utilisait nous, qu'on regardait souvent, quels sont les événements à ne pas louper. Et donc, on vous met un lien dans la description et c'est un document qu'on tiendra à jour régulièrement. Donc, on a essayé de cibler les gros événements, les très gros événements européens et les événements événements français qui sont intéressants. S'il y a des événements que vous souhaitez rajouter, vous nous envoyez, il y a un petit formulaire pour nous contacter. Et puis pour toute personne qui gravit dans cet écosystème, vous envoyez les événements clés qui arriveront d'ici la fin de l'année. Et puis comme c'est la reprise, on trouvait que c'était intéressant de communiquer autour de ça. Donc on a bien ciblé e-commerce et on a essayé de se tenir à ça et pas d'ouvrir, parce que faire une liste avec 150 événements, c'était pas non plus l'objectif.
Et
on
puis,
espère que ça vous plaira.
Il y a certains événements qu'on couvrira avec Adrien dès la rentrée. Je veux dire qu'on se rendra sur
Est-ce
place.
Est-ce qu'il y a une rentrée, Laetitia? Est-ce qu'il y a une saison 3?
Ah
on
oui, c'est
fait
vrai.
Teasing l'année dernière.
On ne sait pas. Ouais, ça non, dépend, parce que moi, je vends mon humble diable chez Amazon. Hein.
Non, il y aura bien une saison 3. Parce que l'année dernière, tu n'étais pas mal à l'aise que je fasse cette blague. Donc, il y a bien une saison 3. On revient avec plein de nouveautés.
On n'a pas discuté des modalités encore, mais a priori.
Avec plein de nouvelles rubriques et de nouvelles choses.
Quoi de neuf chez vous? C'est la rubrique où on lit vos messages, vos petites notes et on répond à vos questions. Cette semaine, Adrien, je crois que nous avons une nouvelle note sur l'Apple Store.
Exactement, ça nous fait 78 notes, 5 étoiles, donc on est super contents. Et il y a Miguel Madi qui nous laisse comme titre « Découverte surprise ». Et le texte est « Je viens de découvrir ce podcast sur le tard et quelle agréable surprise. Je vais essayer de rattraper quelques épisodes en attendant une troisième saison. Bravo !» Merci beaucoup Miguel Madi, ça nous fait très plaisir.
Ça prouve qu'en tout cas, si vous n'êtes pas expert du e-commerce, vous pouvez à tout moment vous y mettre et que le podcast est accessible. Breaking news! Les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle et on en déballe tous en langue de bois. Et cette semaine, on va encore parler de Marc qui nous écoute.
Ah oui, Marc, je pensais les marques. Et justement, non, on ne va pas parler des marques directement, on va parler de réseaux sociaux. En l'occurrence, il y a deux news qui ont. Pour moi, c'est comment mieux terminer cette saison avec cet épisode? Avec ces deux news. La première, c'est sur Facebook et l'autre, c'est sur Shopify. Donc, Facebook qui va accélérer sur le e-commerce. Ils ont fait. C'était même pas un gros événement, en fait. C'était un PR et puis un audio dans lequel. Une room dans lequel Mark Zuckerberg, c'est bizarre, je peux pas l'appeler Marco, je suis pas aussi frané que toi, enfin aussi proche que toi, Laetitia. Et en fait, il a communiqué autour de trois choses. En fait, il veut accélérer sur le e-commerce, il continue à communiquer dessus. Je l'attendais pas du tout, celui-ci.
Les gens, ils n'ont pas.
Régulièrement, il vient, il arrive. Mais tu sais, c'est la meilleure méthode, c'est de venir de manière incrémentale, de rajouter à chaque fois des nouvelles fonctionnalités. Donc là, ça tourne autour de trois axes. La première, c'est la possibilité de voir des shops, des magasins Facebook dans WhatsApp et dans les marketplaces. Mmh. Et on sait que marketplace, c'est un truc énorme pour Facebook. La recherche visuelle sur Instagram et les shop ads sur le réseau Facebook. Donc écoute, WhatsApp continue à être un outil où ils investissent. À tort et à travers, on disait que WhatsApp, c'est une super app. Pas pour le moment, mais en tout cas, ça prend la direction de pouvoir faire plein de choses. De toute façon, c'est galvaudé ce terme. Tout le monde parle de super app, ça veut plus rien dire, mais je suis content de voir qu'on va faire plus de choses dans WhatsApp, parce que personnellement c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, donc j'aimerais bien voir plus de fonctionnalités. Facebook qui lâche pas l'affaire avec l'e-commerce, on pourrait se dire qu'ils restent sur la pub et ils vont se focaliser là-dessus, mais je vois des vraies initiatives et une vraie volonté de construire des choses qui font sens. Ça s'inscrit pas dans une stratégie claire à mon sens, et je le voyais pas arriver, et pour autant Facebook veut devenir un acteur qui compte dans l'e-commerce. Ils ont d'un côté les marques qui font de la pub, ils ont d'un côté les consommateurs. Quand on parle de Facebook, c'est bien la galaxie Facebook avec WhatsApp, Instagram, etc. Il faut juste qu'ils trouvent les bons outils pour les connecter pour les marques et pour les consommateurs. Qu'est-ce que t'en penses, Laetitia?
Est-ce que justement Mark Zuckerberg, dans son intervention, a parlé d'outils, de partenaires?
Ils n'ont pas du tout parlé de partenaires externes. Ils sont concentrés sur eux, qu'est-ce qu'ils vont faire et comment ils vont investir. Moi, je verrais que quand on voit ce genre de choses, on pourrait plus considérer que les autres outils sont des concurrents. Enfin, si on pense à des Shopify et compagnie, ce serait plus des concurrents, en l'occurrence pour le moment, que des partenaires. En tout cas, dans la com qu'ils ont fait là, c'est on va donner les outils et on va investir sur le e-commerce. Bah justement, ça nous amène à la deuxième news. C'était le Shopify Unit Conference. T'en as entendu parler, Laetitia?
Oui,
tu l'as vu un peu?
Je m'étais même inscrite, mais j'avais un autre événement à ce moment-là.
Tu t'es inscrit ou je t'ai inscrit?
Non, je me suis inscrite.
Ok, hein. Je pensais nous avoir inscrits.
Je me suis inscrite toute seule.
T'es une grande, Laetitia, c'est très bien.
D'un petit formulaire, mon nom, mon prénom.
Alors,
et c'est parti.
Donc, cette conférence, c'est une conférence en ligne, digitale. C'était pré-enregistré, à mon avis. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça a duré 1h30, 1h50. Et ça s'adresse aux développeurs. Donc, c'est très court. C'était hier, c'était le soir, c'était, je crois, 19h, un truc comme ça. C'est ça. Donc, c'était relativement simple. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que il y avait un lien YouTube. Tu sais, des fois, il y a des players vidéo, c'est compliqué
à
voir, etc.
C'est long et
tout. Exactement. Et alors là, tu mets en YouTube, tu peux avoir directement accès. Donc, du coup, tu vois combien de personnes. Il y avait 2000 personnes qui regardaient ça en live, ce qui me paraissait très très peu finalement. Je sais pas, 2000 personnes ouais, à regarder ça, ça me paraît hyper peu. Et pourtant, on va voir tout à l'heure, ça a été repris partout. Il y avait un Discord qui avait été créé, c'est le Discord de Shopify, qui normalement, Shopify, ils ont leurs propres outils, ils ont un Slack avec leur communauté, il faut payer, enfin, il faut être dans l'écosystème. Et là, le Discord, il est ouvert à tout le monde, ce qui est plutôt cool. Et il y a un channel France, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et on était plusieurs centaines justement dans ce Discord.
T'as été fouiné dans ce Discord ?
Je vais pas fouiner, Laetitia, moi je vais analyser, je vais lire, je vais contrôler, je rigole, j'ai bien fouiné tous les noms, est-ce qu'il y a des noms que je reconnaissais, etc. Il y en a d'ailleurs, il y a Christophe qu'on a trouvé, donc j'ai fait un petit coucou. Donc écoute, c'était super, c'était une conférence très dynamique avec beaucoup d'annonces et des démos live. En fait, c'était pas fait pour quelque chose qui soit pour des développeurs et où si tu sais pas coder, tu comprends rien du tout. J'ai trouvé que c'était hyper pédagogique et en fait, ils ont toujours en tête, oui, les développeurs, mais également les gérants de boutique ou n'importe qui serait intéressé. Ça va complètement dans la tendance, on va voir les news dans une seconde, mais ça va dans la tendance de on veut plus s'ouvrir et on veut simplifier les outils. Ok, dans les news, moi je passe un petit coup de gueule, Laetitia. Il y a une news qui a été reprise partout, c'est la news parce qu'en fait les gens ils comprennent rien à Shopify et donc ils ont repris le titre partout, c'est Shopify qui stoppe le prélèvement ou les commissions et qui les descendent à 0%. Et là ça a été remixé dans tous les sens, on a entendu dire qu'il n'y a plus de commission sur Shopify si tu fais moins d'un million. Mais non, mais c'est pas du tout ça. Tu vois les trucs et tu comprends les gens qui écrivent ça en vitesse parce qu'il faut la course à la news et tout ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est une grosse news. On va se calmer deux secondes. C'est quand tu travailles, quand tu es un développeur et que tu développes une app qui est dans l'écosystème, la marketplace Shopify, qui s'intègre à Shopify, normalement tu payes, je crois que c'était 20% de commission. Et là, Shopify suit la tendance des gros acteurs et ils paieront 0%. Donc en fait, tu peux intégrer, tu récoltes 100% des revenus que tes clients vont te payer jusqu'à un million de chiffre d'affaires. Donc en gros, c'est très très bien pour l'écosystème des apps qui vivent sur Shopify. Les autres news, Shopify qui va avoir des serveurs régionaux sur les continents, ça va charger plus rapidement, un nouveau thème beaucoup plus fluide et flexible, l'amélioration du checkout pour l'international, l'ouverture même du paiement pour intégrer plus facilement des paiements et du checkout.
Ouais, tu parles de checkout, c'est parce que si tu n'es pas Shopify Premium, ton checkout il est standard, c'est ça, tu peux pas le modifier.
Là tu pourras
et maintenant
pour
tu
le
vas
moment
pouvoir.
ils ont d'ailleurs ils ont pas parlé de Shopify Plus, ils ont parlé juste du Shopify standard.
D'accord,
de ce que j'ai pu comprendre. Donc effectivement il y a un peu plus d'ouverture, donc ça c'est encore autre chose, c'est sur le flow, le checkout process qui va être plus ouvert, mais en réalité c'est la customisation du store qui va être plus ouverte. En gros, tu peux étendre le modèle de données, customiser les thèmes, réutiliser les blocs plus facilement. C'est tout plus mieux, ouvert vers des API. Et tu pouvais déjà faire plein de choses en développement. Ils vont le permettre de le faire directement en no-code avec des drag and drop. La philosophie, c'est continuer à prendre des trucs que tu faisais en code et les balancer en no-code pour que ça soit plus facile. Donc du coup, c'est mieux à plein de niveaux et c'était vraiment bluffant. C'était super bien, super dynamique et super bien fait. Mon analyse, ouverture, continuer d'ouvrir. Ils ont compris que les API, c'est le futur. C'est déjà le passé, c'était le passé, c'est le présent et c'est encore plus le futur. Donc ils ouvrent dans tous les sens, ils permettent la customisation et le contrôle des développeurs sur le store. Ils ont mentionné l'exemple de Netflix, c'est qu'il avait ouvert son store, on en avait parlé il y a deux semaines, et ce qui est cool, le timing était parfait, c'est
Netflix
qu'ils ont utilisé le Netflix Shop qui utilisait justement le nouveau thème avec des nouvelles fonctionnalités avancées. Donc écoute, j'ai trouvé ça super d'être à l'écoute de la communauté. On était un peu critique justement dans le passé qu'ils communiquaient pas beaucoup,
qu'ils communiquaient
pas beaucoup. En tout cas là ils ont trouvé des trucs, les devs, il y a un consensus sur le marché. Ensuite, j'ai lu plein de choses qui ont été dites sur le secteur et tout le monde semble très très content de ce qui a été dit.
L'équipe Shopify France a participé, ils étaient présents.
Ils étaient dans le Discord, ouais. Donc ils participaient indirectement. Maintenant, tout était en anglais, j'avais pas les US. Donc écoutez, c'était cool et bravo Shopify.
Retour vers le futur, c'est la rubrique qu'on fait un bond d'un an en arrière pour faire un suivi sur les news marquantes de l'époque. On confronte nos prédictions et on les analyse. Et puis surtout, on vous en fait part. Montez dans la DeLorean, c'est parti. Retour vers le futur, épisode 47 du 30 juin 2020.
Laetitia, l'année dernière, pile il y a un an, on recevait Cyril Duplessis du podcast Digital Doers, qui faisait l'amitié d'être présent dans le podcast. Il y avait plein de news. On parlait de Nike qui décidait de se focaliser sur des stores plus monobrand. Nike, ils cartonnent. Ils ont, en Q1 de cette année, ils ont fait presque x2 par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Donc Nike, ça va très très bien pour eux. On parlait de Shop in Shop, Emma qui s'invite chez Casino et Franprix. Et écoute, ça a très bien marché parce que le partenariat avec Franprix, il se poursuit. Ils vont faire plus de références cohérence pour avoir tous les produits Emma, plus de points de vente pour être partout et des zones de livraison étendues. Tu sais, c'est quoi le best-seller Emma chez Franprix? Tu n'as jamais imaginé?
Non.
C'est le papier
A4. La papeterie.
Bien vu, j'aurais jamais imaginé quoi.
Par contre, je me demande Décathlon, parce que j'ai vu un shopping shop Décathlon Franprix, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vendent? Et, bon, je ne suis pas rentrée, mais je me dis, mais quel est le produit le plus vendu?
Ils n'en ont pas beaucoup des produits, donc ça doit être, je ne sais pas.
Si vous savez.
L'année dernière, on parlait également d'Amazon qui lançait son agence tout risque, c'est la Counterfeit Crime Unit, ça fait très CSI, tu vois, et c'est pour gérer une équipe de hackers, de plein de profils différents. De sécurité pour gérer les counterfeits, donc les fakes, les faux. Et ben écoute, il y a quelques jours, les contrefaçons, merci Laetitia. Et il y a quelques jours, justement, ils ont déposé une plainte aux États-Unis avec une boîte française, c'est Asmodée qui fait des jeux de société pour des contrefaçons du jeu Dixit. Donc j'ai trouvé ça amusant qu'il y a un an, ils communiquaient sur cette agence qu'ils avaient ouvert, ou cette équipe qu'ils avaient ouvert, et on voit une répercussion un an plus tard. C'est un épisode où on avait beaucoup parlé d'Amazon. Amazon qui annonce un fonds pour le climat doté de 2 milliards de dollars et Microsoft qui annonçait qu'il allait définitivement fermer la quasi-totalité de ses magasins. Dans le monde. J'ai l'impression que c'était il y a plus longtemps que ça, et non, c'était il y a un an qu'ils ont décidé de fermer les stores.
Passe le mic, c'est le moment où on partage le micro avec un invité. Et cette semaine, on passe le micro à Vilia de l'agence D&D qui va nous parler d'usine à site. Aujourd'hui, nous allons passe le mic à Vilia. Vilia, qui est Head of UX and UI Design chez l'agence D&D. Souvenez-vous, l'agence D&D était déjà venue chez nous au micro en début de saison. Bonjour Vilia.
Bonjour.
Salut Vilia.
Comment ça va Vilia?
Bah, ça va très bien, vous?
Super, on va très bien. T'as le sourire, tu peux nous dire qui tu es?
Oui, donc je m'appelle Vilia, donc je suis Head of Design à l'agence D&D. Je m'occupe de l'offre design et je pilote les équipes. Ça va faire 10 ans que je suis à l'agence aujourd'hui et l'agence D&D, elle est spécialisée dans l'e-commerce et dans tout l'écosystème e-commerce. Je suis à l'origine du premier Magento 2 et au niveau de mon parcours, j'ai intégré l'agence en tant qu'intégrateur HTML CSS au tout début.
Et en quelle année ça?
Oh, c'était en 2012, ça passe vite.
Non, mais moi j'ai halluciné quand t'as dit 10 ans, en fait. C'est pas possible.
Ouais, ça fait quand même 10 ans et ça passe très vite.
Vous le voyez pas, mais moi je l'ai en face de moi et il y a zéro ride, il y a zéro cheveux blancs. Donc t'es arrivé ici, t'avais 12 ans, on est d'accord?
Ouais, plus ou moins, ouais. Et du coup, ouais, j'ai commencé en tant qu'indicateur HTML CSS. Puis après, en fait, mon bagage initial, c'était le design. Et à l'époque, avec l'agence, on n'avait pas forcément besoin du design à ce moment-là. Et l'agence a grandi, on a accueilli de nouveaux collaborateurs. Ça a beaucoup bien marché de notre côté en termes de business. Et c'est là où le design a décollé et j'ai dû me spécialiser entre guillemets, sur la partie design. Et me voilà Head of Design aujourd'hui.
Et surtout dans un contexte e-commerce, c'est pour ça que ça nous intéresse. Quand on a préparé cette émission, on s'est dit que ça serait super d'échanger autour d'un concept, c'est l'usine à site. On entend beaucoup parler, moi ça fait des années que j'entends ce concept, et j'ai l'impression que depuis quelques mois, il revient un petit peu à la mode. Est-ce que tu pourrais déjà nous définir qu'est-ce que ça veut dire l'usine à site?
Alors l'usine à site, tout simplement, c'est se dire, on a un modèle de base où il y a des fonctionnalités, une expérience utilisateur, des besoins auxquels on répond, qui va servir à plusieurs marques, plusieurs plateformes. Le tout, vraiment, c'est d'avoir une approche d'unifier, d'uniformiser les process, que ce soit au niveau du CMS, avoir la même technologie pour tout le monde, mais aussi en termes de process côté client, côté e-commerçant, que tout soit uniformisé pour que chacun des différentes marques, par exemple, puisse avoir la même manière de travailler et de fonctionner.
Ce que tu décris là, ce n'est pas des fonctionnalités standards des plateformes e-commerce, justement?
On va très certainement débuter par effectivement montrer les fonctionnalités de base du e-commerce, mais l'objectif, c'est aussi de prendre le besoin spécifique des plateformes, de l'implémenter et d'avoir une vision globale pour que tout le monde puisse avoir ce qu'il veut sur le modèle de base.
Moi, j'ai un peu ce cliché que l'usine à site, c'est surtout pour des grosses marques qui ont plusieurs petites, enfin pas des petites marques d'ailleurs, mais qui ont plusieurs marques et qui veulent aller très très vite. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Alors, j'ai tendance à dire dans un premier temps que c'est vrai parce que c'est très challengeant pour ces groupes, ces sociétés. Et souvent, on est dans un cas où on a plusieurs marques à gérer. Donc, ça s'adresse à ces personnes-là. Dans un premier lieu, ils rencontrent ces difficultés. consulter. Mais j'ai envie de vous dire que c'est à la portée un peu de tout le monde finalement, qu'on soit aussi un petit commerçant, qu'on a envie de gérer plusieurs petites marques qu'on a fondées, et de vouloir déployer très rapidement des plateformes pour ces marques, finalement ça peut convenir à tous les budgets, comme les grands groupes ou des e-commerçants qui ont un budget un peu moindre.
Ce que je voyais de mon expérience, c'est que dans un grand groupe, typiquement, tu vas avoir des marques ou des pays ou des filiales qui vont vouloir tester des choses. Donc, tout le monde va avoir des trucs différents parce qu'il y a des spécificités locales. À un moment donné, au niveau du siège, on en dit, il y en a marre, on va tout uniformiser. Le problème, c'est que du coup, tout le monde va se ressembler et on arrive un peu à un paradoxe où est-ce que tout le monde reste différent et reste innovant, ou est-ce que tout le monde ressemble à la même chose. C'est un petit peu cet enjeu qu'essaie d'adresser l'usine.
Ouais, tout à fait. C'est le gros enjeu et c'est aussi le gros challenge, j'ai envie de vous dire, côté groupe, c'est de montrer la valeur de l'utilisation de l'usine à site, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Mais effectivement, c'est aussi de les sensibiliser sur d'unifier, de dire il faut qu'on se pose autour d'une table et qu'on décide de ce qu'on veut ensemble et pas avoir des idées à droite à gauche et finalement aller chacun dans sa direction, quoi.
L'avantage d'avoir ces réflexions, c'est de peut-être passer un peu plus de temps au départ pour construire le premier site, mais derrière, c'est le principe de l'usine. Une fois que tu as toute la chaîne qui est faite, tu vas déployer très rapidement, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. C'est de passer du temps sur la conception, vraiment avoir une vision globale des choses pour toutes les marques, implémenter les besoins de l'ensemble de ces acteurs, de ces décideurs, et pour après passer moins de temps sur le lancement des différentes plateformes.
Il y a un concept qu'on entend souvent quand on parle d'usine à site, c'est le concept de core model. Tu pourrais l'expliquer un petit peu ce que ça veut dire et comment ça fonctionne ?
Le core model, c'est finalement, j'ai envie de vous dire que c'est beaucoup lié à la technique. C'est de se dire qu'on va choisir une plateforme, un socle technique pour tout le monde. Et l'idée, effectivement, c'est de concevoir cette plateforme technique en y implémentant toutes les spécificités liées au système d'information, à la partie front office aussi, comment on administre le contenu. Et du coup, ça a formé un modèle de base qu'on va pouvoir déployer pour les autres marques, par exemple.
Tu as le core, en anglais, donc c'est le cœur, on va dire le modèle cœur, et là-dessus, tu vas pouvoir greffer des choses par-dessus qui sont les personnalisations, enfin les choses spécifiques à des pays ou à des marques ou à des choses particulières, c'est ça ?
Exactement. En fait, il faut se dire que on passe du temps sur la conception pour avoir une vision globale, mais le core modèle évolue ensuite en fonction des besoins, des évolutions de chaque marque, et c'est là où on va venir greffer ces nouvelles fonctionnalités au core modèle dont les autres marques pourront hériter.
Mais est-ce qu'il y a quand même des limites à ce core modèle ? Parce que du coup, moi, ce que j'entends, c'est qu'on greffe, au bout d'un moment, faut limiter pour en venir à l'essentiel, peut-être.
Ouais, tout à fait. Et je vais plus parler par rapport au design. Je pense que de ce que j'ai connu et de ce qu'on voit, c'est par rapport au design, c'est on va faire des sites, un core qui va être pour tout le monde, et on va devoir trancher sur les aspects graphiques pour éviter effectivement de trop spécifié pour telle ou telle marque et finalement perdre ce principe d'économiser au niveau des lancements. Et ça va se faire beaucoup sur la partie front office où on va être beaucoup contraint sur les aspects graphiques des plateformes.
Le besoin, il est déjà identifié et elles viennent avec ce besoin, ou c'est à vous de comprendre, dans ton contexte, ce qu'il faut, c'est avoir une approche usine à site ou core modèle?
Alors, je pense que c'est les deux. On a eu l'occasion d'identifier un besoin. Le client nous a dit, moi, j'ai plusieurs marques, etc. Je me demande comment je peux optimiser les choses. Et avec l'équipe Pre-Sales, c'est là où on leur propose ce principe d'usine à site, de core modèle, où on a d'autres prospects qui sont plus matures, qui ont fait des recherches, et là, ils vont venir nous dire « j'aimerais avoir un système d'usine à site ».
Il y a aujourd'hui chez l'agence D&D, qu'est-ce que vous utilisez comme solution e-commerce justement pour implémenter ces usines à site ?
Alors aujourd'hui, les principaux clients aujourd'hui qui possèdent le core modèle usine à site sont sur Magento 2. Nous, c'est une plateforme qu'on aime beaucoup, qu'on connaît bien, et ça c'est important en tant qu'agence de bien connaître les capacités de votre CMS pour pouvoir l'exploiter. Pour le core modèle, ça nous permet d'avoir une gestion multi-website, multi-langue, d'avoir plusieurs thèmes. Et ça, c'est génial pour le core modèle parce que ça nous permet d'aller très, très vite dans le déploiement des plateformes.
Et quand tu dis très, très vite, c'est quoi ?
C'est quelques semaines, honnêtement, ça va dépendre.
Je croyais que ça allait dire quelques mois.
Non, c'est quelques semaines, honnêtement, ça dépend aussi de la complexité de votre core modèle. Si vous avez un core modèle assez simple, moi, sur la partie design, on va passer une semaine à faire l'ensemble des maquettes du parcours utilisateur de conversion. Ensuite, c'est le développement et
donc
ça va très vite.
Donc, le cycle de vente est beaucoup plus long que le cycle de développement.
C'est toujours ça quand c'est bien fait. Et puis, une des forces, c'est surtout de se dire, si tu veux lancer une autre marque qui a un design complètement différent, derrière le back-end, 99% c'est la même chose et donc tu peux le lancer très rapidement. Et si tu as un site qui est italien et tu veux le lancer en Espagne, ça va encore plus vite si c'est pour la même marque.
Ouais.
Et est-ce que tu vois que quand tu travailles avec les marques, c'est compliqué de définir ce core modèle parce qu'il faut avoir tout le monde autour de la table?
Ouais, c'est vraiment les gros challenges, c'est que tout le monde soit aligné. Et souvent, le challenge, il est côté e-commerçant, côté groupe, où effectivement, c'est plusieurs marques qui sont très souvent issues de plusieurs pays, qui ont aussi chacun un peu leurs affinités dans l'e-commerce. Et en fait, ils doivent se rassembler et dire, en fait, oui, on veut cette page de telle façon et ça répond à tout le monde.
Il faut faire l'arbitre entre ce que veulent les filiales, on va les appeler comme ça, et ce que veut la corp ou qu'est-ce qu'on va mettre dans le corp. Parce que ça alourdit, enfin, il faut pas tout mettre dans le corp, comme disait Laetitia. Plus tu rajoutes des trucs et plus ça alourdit et tu es peut-être un peu moins agile, quoi. Donc, il faut avoir vraiment l'essentiel.
Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait un pilote au niveau du groupe qui va être là pour trancher aussi avec nous, qui puisse nous soutenir pour trancher les choses. Et c'est oui toujours avoir l'idée globale et après on ajoutera les spécificités.
T'as des exemples de marques qui l'ont soit que vous avez accompagné ou que tu connais qui ont lancé ça et l'impact que ça a pu avoir soit en termes de temps projet ou même s'il y a un ROI à partager?
Tout à fait. On a travaillé dernièrement avec le groupe Nutrition et Santé qui est spécialisé dans la nutrition. Voilà, elle possède plusieurs marques comme Isostar et Gerlinia. Ce sont les deux marques qu'on a sorties il y a bientôt un an. J'ai pu travailler dessus au niveau du core modèle. Et en fait, ce que tu me décris au niveau des challenges, de s'aligner sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, c'est exactement ce qu'on a rencontré. On leur a permis de déployer ces deux marques en 3-4 mois et ensuite de faire ce qu'on appelle les roll-out sur les langues. On a sorti Isostar France, Gerlinia France et ensuite on a fait les roll-out sur Isostar Espagne et je crois Gerlinia Benelux dans les deux mois qui ont suivi, quoi.
Et l'approche normale, classique, normalement, c'est de faire des copier-coller, tu dupliques. Donc après, quand tu dois faire des maintenances et qu'il y a une modification qui est transverse, faut la faire 10 fois. Et l'avantage du core modèle, justement, tu fais la modification une seule fois et ça impacte partout. Et là, du coup, il y a combien de sites, on va dire, qui reposent sur ce core modèle?
On a travaillé sur d'autres rollout marques que je peux citer, Weightcare, Modifast et deux autres sur lesquels on bosse aujourd'hui en conception. Donc, ça fait 6 marques et je pense qu'il y en aura d'autres.
Sur combien de pays?
Ça va concerner l'Espagne, l'Italie, la France et tout le Benelux.
Ah, voilà, donc ça fait facile, 6 x 4, ça fait 24. Il y a 24 sites à gérer. Et là, l'usine à sites fait complètement sens.
Vilia, moi, je suis une marque, je viens vous voir, je frappe à votre porte et je te dis, j'aimerais bien lancer une usine à sites. Quand est-ce que je le fais et pourquoi est-ce que je le fais? Qu'est-ce que tu me réponds?
Alors, il faut faire une usine à sites quand vous êtes dans une démarche où vous voulez déployer plusieurs plateformes très rapidement, vous voulez économiser pas mal d'argent aussi lors de ces lancements et vous avez des délais hyper courts de lancement. Généralement, ça intervient aussi avec l'international. Vous avez plusieurs langues à gérer. Voilà, gestion multi-website. Et aussi, il y a aussi une volonté d'avoir une conduite du changement au niveau groupe, d'uniformiser les process en interne pour mieux communiquer entre les marques. D'un point de vue design, ce qui est bien avec le core modèle, les usines à sites, eh bien, c'est vous optimiser aussi l'expérience utilisateur pour tout le monde. Et tout le monde bénéficiera de cette expérience utilisateur qui est optimisée pour chaque marque. Et ça va aussi fluidifier tout ce qui va être alimentation de contenu. On va pouvoir donner des specs à toutes les marques qui vont respecter les mêmes specs pour pouvoir administrer leur contenu sur toutes les plateformes. Ils vont pouvoir générer les choses plus vite et avoir une cohérence finalement en termes de process interne chez eux.
La beauté, c'est que tu peux toujours, sur une marque, faire un test d'un quelque chose sur l'UX. Et s'il y a des résultats probants, bah, tu peux le déployer pour le coup sur tout le monde. Mais c'est comme du SaaS. Et tu le déploies pour tout le monde en un clic, ou en tout cas juste en modifiant le core model, c'est ça?
Ouais, carrément. C'est aussi une démarche qu'on a sur notre client Nutrition et Santé, qui font évoluer leur core model. Un cas typique, c'est j'ai envie d'ajouter les avis clients sur la fiche produit. On le fait pour le core model. Tout le monde peut en bénéficier. Et j'ai des marques qui vont dire bah, moi j'en ai besoin, et bah, d'autres qui vont dire moi j'en ai pas besoin, mais c'est disponible pour tout le monde.
Vilia, si je comprends bien, on a tout à y gagner en passant sur une usine à site. Est-ce que tu peux nous énumérer très rapidement les tips et les conseils pour passer, justement, franchir le cap?
Carrément. Alors, le premier, c'est d'impliquer tous les décideurs, les représentants de marque, tout au début, dans la conception. C'est important qu'ils soient là dès le début pour voir quelles sont les spécificités de chacun. Le deuxième point, c'est au niveau groupe, de vous préparer d'être un facilitateur. Vous allez devoir gérer les discussions entre les marques. Ça, c'est super important pour que tout le monde soit aligné. Troisième point, c'est de faire en sorte que toutes les équipes soient sensibilisées au core modèle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Les limites, les points positifs. Autre point aussi, en termes de conception, c'est toujours essayer de prendre du recul, d'avoir une vision globale et réfléchir pour tout le monde et pas juste pour sa marque. Un autre point, c'est les limites graphiques, comme on en a parlé. Être conscient qu'un core modèle, ça pose des limites aussi sur la partie front. Et enfin, un dernier conseil, c'est de se dire que l'usine à site, c'est pas forcément un site low cost. Vous pouvez faire un très beau core modèle de base, très poussé, qui peut être déployé pour pas mal de marques. Voilà.
Merci beaucoup, Vilia, pour tous ces conseils. Et puis, tu n'as pas du tout parlé de la technologie, parce qu'en fait, c'est indépendant de la techno qu'on utilise. On a parlé de Magento, mais ça peut être sur n'importe quelle techno. Vilia, si on veut en savoir plus, comment on fait?
LinkedIn. Vous passez sur mon profil LinkedIn. Je suis assez réactif, donc m'envoyez un message, il n'y a pas de souci.
Super. Et puis, on mettra aussi un lien vers un white paper, un livre blanc que vous avez ou un article que vous avez publié. On le mettra en commentaire. Comme ça, les gens pourraient également avoir une version écrite un peu plus profonde de tout ce qu'on s'est dit. Merci beaucoup, Vilia.
Merci à vous.
Merci,
à très bientôt.
Reco micro, micro reco, au micro, on fait notre reco. Écoutez la illico presto. Retrouvez toutes les reco sur la page Notion en lien dans la description. Adrien, quel est ta reco de la semaine?
Ma reco, c'est une reco que je suggère à beaucoup de personnes de lire, surtout les personnes qui sont un petit peu qui, comme moi, qui se retrouvent là-dedans, c'est vouloir comprendre un peu plus la Gen Z. Tu nous rappelles là, parce que tu m'as repris la dernière fois, c'est les moins de 18 ans, c'est ça?
Non, c'est 15-24.
Ok, 15-24, donc c'est tous ces jeunes qu'on a l'impression
c'est pas nous.
Et surtout, c'est une reco, c'est les Gen Z pour les boomers. Donc moi, je suis complètement dans la truc
boomer.
Boomers,
exactement.
Et okay, tu
boomer.
Retrouves un guide qui est très clair sur les codes, comment ils communiquent, les valeurs qu'ils ont, tu vois. Et j'ai trouvé ça super bien écrit. Bon, en fait, si tu travailles dans le digital et que tu sais que ça peut être ta cible ou que c'est ta cible, peut-être
c'est
que
génial.
Tu connais déjà. Mais j'ai trouvé que c'était un article très facile à lire avec des images. Et franchement, j'ai appris des trucs. Hein. Tu sais,
Qu'est-ce que t'as appris alors?
C'est comme les pubs où tu veux faire genre, tu parles avec comme un jeune et tu lui fais dire des trucs, mais en fait, les jeunes, ils parlent pas comme ça, quoi. Et le fait de pas masquer, ça, c'est honte. Tu sais, nous à l'époque, on fait attention d'être parfait, machin. En plus, en off, on parle souvent de ces gens qui veulent être parfaits. Et en fait, la Gen Z, justement, ils vont dire j'ai foiré mon bac blanc, j'ai foiré mon truc. Et voilà, ils vont montrer leur failure, tu vois, et puis ils vont le mettre en avant et ça donne l'authenticité, la super authenticité, quoi. Donc, et plein de trucs comme ça. Ils assument leur style, tu vois. C'est même pas un style vintage, new age ou je sais pas quoi. C'est juste, ils ont un style différent et ils l'assument. Et puis, si tu me regardes de travers. Donc voilà. Donc, j'ai trouvé ça super, super intéressant.
Et sur les outils, du coup, ça parlait de les outils qu'utilisent. La Gen Z.
Bah oui, pourquoi tu l'as lu, non? Ah bah non, c'est marrant.
Non,
ah bah c'est exactement
lu.
Ça.
Non,
bah
non,
il y a une image que j'ai adorée. C'est parce que on se retrouve là-dedans. Dans le podcast, on a plein de micros, de machins, de devices et tous ces trucs-là. Et eux, ils ont juste TikTok et le téléphone.
Et
tu vois, regarde, là, je vais te montrer l'image. Alors, c'est pas très visuel, mais en gros, on voit que nous, là, les layeuses, on va avoir plein, 50 000 outils.
Plein de gadgets.
Et eux, ils vont juste créativité
et puis
un phone, quoi. Donc voilà, Laetitia, ta reco, c'est quoi?
Ma reco, eh bien, c'est le site Super Creative. Donc, Super Creative Design, c'est pour réveiller le créatif qui est en vous. Donc, c'est très simple. Vous avez ou vous n'avez pas d'idée, vous vous rendez sur ce site et puis vous avez des challenges qui vous sont proposés. Par exemple, j'ai pas d'idée. On va vous proposer tout un parcours pour comment avoir des idées. J'ai pas d'idée, mais je suis très créatif, mais je sais pas par où commencer. On vous propose aussi un parcours. Et il y a plein de challenges aussi autour de votre créativité. Et du coup, moi, je me suis inscrite et on reçoit pas mal de contenu et j'aime bien, et c'est créé par un Français. Donc voilà, pas du tout e-commerce, mais peut-être que si vous avez une idée e-commerce, vous pouvez commencer comme ça si vous savez pas par où commencer, ou tout simplement s'ils ont envie d'être entourés et de discuter aussi, parce qu'il y a aussi une communauté, s'ils ont envie de discuter, et ben je vous recommande ce site supercreative.design. Le panier surprise, c'est la rubrique de fin, celle où on se détend, on s'amuse. Adrien, le maître du jeu, et s'amuse autour de sujets autour du digital. N'hésitez pas à vous prendre au jeu et à participer de votre côté pour trouver les réponses le plus rapidement possible. Adrien, cette semaine, on a un cupuc et un what the fuck.
What the fake.
Un what the fake.
Ouais, j'ai pris les deux jeux qui me faisaient le plus marrer pour ce dernier. Est-ce que t'es prête pour
Ready. Sachant que j'étais en vacances, donc j'étais complètement déconnectée, je ne sais pas du
Alors,
tout ce qui s'est passé.
Alors, le cupuc, c'est le question pour un champion digital. Je pense à une personnalité, une marque, un objet ou quoi que ce soit. T'es prête?
Allez.
Top. Entreprise française fondée en 1837, je m'occupe de la filature de laine. En 1922, après la guerre et pour écouler mon stock,
Comment ça s'appelle?
Tu vas me détruire mon jeu.
Ah putain, j'ai le nom là, dans ma tête, là, ce truc de tricot là, comment ça s'appelle?
En 1922, après la guerre.
Non, je l'ai. Okay, cherche un fil d'art.
Eh bien écoute, pas du tout.
Blanche porte.
Pas du tout.
Non.
En 1922, après la guerre et pour écouler mon stock, je fais paraître une publicité dans un journal et cela marche très bien et me permet de développer rapidement et justement, je lance ensuite un catalogue papier. Malgré un rachat par un grand groupe en 1994, en 2010, mes ventes baissent de 10% par an. En 2013, je suis revendu pour 1 euro symbolique à mes dirigeants. En 2015, je perds toujours de l'argent. Et en 2017, je suis racheté par un grand groupe français, non, spécialiste du commerce de la mode en centre-ville. Pour autant, malgré ces difficultés, je suis depuis une dizaine d'années dans le top 10 des sites de vente en ligne en France. Après une croissance en ligne de 20% en 2020, le futur semble prometteur avec un CA d'un peu plus d'un milliard d'euros. Aujourd'hui, je suis all-in sur le digital. Arrivé sur TikTok en 2020 et focus des familles. Rénovation totale de ma marketplace.
Mais attends, tu me dis pas que c'est pas la redoute.
Bravo, c'est la redoute.
Mais quoi, la description va pas du tout.
Ok, tu contestes.
Non, mais...
Et je vais terminer la description, restez une ligne, bravo. Je lance un site de seconde main qui me permet de reboucler... Attends, j'avais fait une punchline, écoute. Je lance un site de seconde main qui me permet de reboucler dans l'économie circulaire car je ne redoute rien, je suis la redoute. Bravo Laetitia, bravo.
Mais c'est marrant parce que... Ok, non mais t'as tout à fait raison.
On passe au deuxième jeu, c'est le What the Fake. Le What the Fake, j'ai trois news et tu vas me dire si elles sont fake ou pas fake.
Allez.
La première, VP se lance aussi dans la seconde main avec un lancement prochain d'un site de vente privée de seconde main.
Bah c'est vrai ça.
C'est complètement faux. Je voulais faire d'un site de vente privée de seconde main upcyclé, tu vois. Enfin, jusqu'au bout du bullshit. Non, c'est complètement
c'est
fake. Ok. Deuxième news, Laetitia. Walmart, Costco, Target et une dizaine de retailers brick and mortar lancent l'initiative PNVB, Physical Native Vertical Brands, pour promouvoir les retailers sur le marché.
Non, c'est hyper compliqué tout ça là. Vrai.
Et bah c'est faux. Je suis trop content que ça tombe dans
je
le panneau.
Surtout.
Je me suis dit comment.
Non, j'ai envie de dire faux et je dis non. Allez.
Non, au lieu des DNVB, je me suis dit les PNVB, c'est complètement n'importe
bah oui,
quoi.
Tout mélangé.
Et c'était donc très rigolo. Et enfin, troisième news, Amazon utilise une intelligence artificielle pour virer les employés non performants.
Bah écoute. Moi j'ai envie de dire oui. Et c'est pas rigolo, donc on va couper ça.
Donc quoi? Donc oui ou non?
Non, c'est pas possible. Non, franchement, what the fake?
Donc alors, c'est vrai ou c'est pas vrai?
Non, mais c'est faux.
C'est faux?
C'est faux.
Et bah donc tu as faux partout.
Non, mais
c'était un vrai.
Je voulais dire en vrai.
Et en fait, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors j'ai tourné un petit peu le truc, mais c'est quoi? C'est quand tu as un livreur sur Amazon,
bah, t'es
tu as
timé,
une note.
T'es...
Voilà, tout est monitoré. Et certains livreurs, justement, ils disaient bah la porte de l'immeuble est bloquée, je peux pas livrer. Donc du coup, ma note, elle va descendre. Et ils automatisent le process. Quand tu arrives à une certaine note ou si tu as une alerte, ils vont te couper ton compte. Mais tout comme si demain, je sais pas, t'es sur YouTube, tu postes une vidéo qui est complètement, tu vois, qui ne respecte pas le droit d'auteur, on va te couper ta chaîne, couper la vidéo ou au bout de certain temps couper la chaîne. Là, on va couper automatiquement. Et donc, du coup, les titres des news, c'était on utilise l'intelligence artificielle pour stopper les employés. En réalité, ça marche bien pour 99,9% des gens. Mais oui, l'algorithmie, et ce qui gêne, c'est qu'il n'y a pas une personne derrière qui dit écoute, fin de contrat. Ils peuvent ensuite revenir manuellement. Donc, c'est un peu compliqué à gérer. Mais effectivement,
chaud,
il y a eu beaucoup de choses. Ouais, mais bon, ça a été repris pas mal dans les news. Écoute, pour une fois, t'as tout faux.
Bah ouais, mais sauf que j'avais envie de dire oui à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. Allez, j'accepte la défaite. Ciao, c'était super.
Laetitia, avant de terminer, je voulais qu'on prenne deux petites minutes pour faire un petit bilan. Déjà, vous remercier tous de nous avoir suivis ces deux dernières années. Là, c'est cette année, la 2020-2021, ça a été vraiment en termes d'audience et de reach pour nous une superbe année. On a vraiment, chaque épisode, on a de plus en plus de personnes qui nous écoutent. Ça se traduit dans les chiffres, sur les réseaux sociaux, dans le groupe WhatsApp également. On a commencé, on était une soixantaine, je crois, septembre dernier. On a doublé. Et puis, on continue à avoir des feedbacks très positifs. C'était avec le confinement l'année dernière, c'était un petit peu plus difficile pour l'enregistrement, mais on s'est tenu à la régularité. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et puis là, maintenant, avec la réouverture, ça se passe mieux. Et le lancement de la vidéo et du live qu'on va poursuivre nous donne des bonnes pistes là pour la suite. L'année prochaine, on a plein de projets. On ne va pas tout dévoiler. On peut dire peut-être ce que tu en as parlé tout à l'heure, c'est la couverture des événements. Et puis, on a d'autres projets dans les box. Et je vais donner mon feeling dans une seconde. Petit bilan sur cette année, Laetitia.
Comme tu l'as justement dit, Adrien, ça a été une année assez mouvementée. On a réussi, comme d'habitude, à surmonter les confinements, les reconfinements, et voilà. Moi, ce que je noterais, c'est les lives. Au début, j'y croyais pas, et en tout cas, j'étais pas très à l'aise. Mais force est de constater que c'est ça qui a bien dopé un peu notre visibilité, et on en est très reconnaissant parce que c'est pas uniquement grâce à notre travail, mais c'est aussi grâce à vous, grâce à vos retours, grâce au fait que la communauté échange énormément entre elles. Et puis surtout, merci pour tout l'accueil que vous faites à nos initiatives. On est vraiment hyper reconnaissant. Et du coup, c'est sûr qu'à la rentrée, on va revenir avec d'autres initiatives aussi flamboyantes, j'espère.
Ouais, donc peut-être pour terminer, on voulait vous remercier à tous. On est toujours autant motivés. C'est un tous inclusif, Laetitia. On est toujours motivés. On va continuer le rythme. On reprend à la rentrée avec plein d'idées. Et puis vous pouvez compter
et
sur nous pour
encore
continuer. Donc merci beaucoup.
Bonnes vacances. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous ce moment. Pour retrouver les références de cet épisode, le dernier de la saison 2 du podcast Le Café de l'e-commerce, rendez-vous dans les notes de l'émission sur le site lecafedelecommerce.fr. Si vous nous écoutez sur un appareil Apple, laissez-nous 5 étoiles dans l'Apple Store. C'est natif, allez-y. Et puis, je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous.
Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao tout le monde.
Quand on vend son âme au diable, on a droit à quelques compensations.